Mais ça fait presque 35 ans que je travaille pour l'ONU et je pense que surtout on doit garder notre idéalisme. Mais surtout aussi, je peux dire que sur 35 ans, je vois du progrès au niveau de la façon dont l'ONU s'organise, réagit à tous les défis du monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis, c'est vrai qu'ils deviennent plus complexes. Mais en même temps, je vois beaucoup d'espoir, je vois des solutions, je vois des opportunités partout.
Alors, ce programme d'action, hein, évoque les déplacés internes. Alors, peut-être en quelques mots, c'est quoi cette population des déplacés internes par rapport, par exemple, aux réfugiés?
Effectivement, c'est une population qui est moins bien connue. On parle souvent des personnes déplacées par force, de force, et aujourd'hui, ce chiffre augmente 117 millions de personnes. Et normalement, je pense beaucoup de monde comprennent que c'est des réfugiés, ce chiffre. Mais en fait, il y a deux catégories, disons, de personnes en dessous de ce numéro. Des réfugiés qui sont déplacés de chez eux par des désastres, par les guerres, mais qui croisent une frontière internationale. C'est des réfugiés, ils ont une protection légale qui vient avec le travail de l'HCR. La plus grande partie, en fait, aujourd'hui, comme vous avez observé, 76 millions de personnes sont des déplacés internes, aussi déplacés de chez eux. Ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leur communauté, ils ont perdu leur maison, mais ils n'ont pas croisé une frontière internationale. Ils sont toujours dans leur propre pays.
C'est le cas par exemple dans un pays comme la République démocratique du Congo où il y a énormément de déplacés internes.
Des millions au Soudan aujourd'hui. Au-dessus de 9 millions de déplacés internes. C'est malheureusement le plus grand chiffre qu'on a jamais vu.
Alors j'évoquais, hein, dans l'introduction cette augmentation sensible en 2 ans de ce nombre, hein, pour arriver à 76 millions aujourd'hui. Comment est-ce qu'on l'explique, cette augmentation du nombre de personnes déplacées internes? Ce sont les conflits, il y a d'autres explications?
En fait, c'est un peu compliqué, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer d'expliquer. D'un côté, il y a une soixantaine de millions de déplacements l'année dernière. 56% de ces déplacements, en fait, étaient liés avec des désastres, des tremblements de terre, des inondations. 40%, 44%, l'autre partie, par les conflits, le Gaza, le Soudan, etc. Donc, tremblements de terre en Turquie vis-à-vis le Gaza, le Soudan. Donc, ces différentes catégories de déplacements. Mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la plus grande partie des personnes qui sont déplacées par des désastres rentrent chez eux assez vite. Donc, on regarde aussi à la fin de l'année qui est toujours déplacé. Et là, on trouve effectivement à la fin de l'année dernière 76 millions de personnes en déplacement. Parmi eux, 90% sont déplacés par des conflits. Donc, c'est une différence entre les désastres qui déplacent de plus en plus de personnes chaque année, à cause surtout du changement climatique, et les conflits qui déplacent beaucoup aussi, mais on voit que ces personnes qui sont déplacées par les conflits sont vraiment ils sont déplacées pendant des années.
Alors justement, venons-en à ce programme d'action, hein, sur les déplacés internes dont on célèbre les 2 ans ces jours-ci. Comment est-ce que concrètement ce programme vient en aide, soutient ces personnes déplacées internes partout dans le monde?
En fait, on s'est rendu compte que quelque chose devait changer. Et le secrétaire général a demandé que l'ONU revoie complètement la façon dont nous réagissons à ce défi. Il faut surtout qu'on cherche des façons de baisser les chiffres de nouveaux déplacés. Il faut deuxièmement qu'on améliore la façon dont on répond quand les gens sont déplacés, leur soutenir une meilleure façon. Et puis troisièmement, comment briser un peu cette réalité des personnes qui sont déplacées pendant des années, on dit en anglais protracted displacement, des déplacements à long terme, parce que ça devient de plus en plus commun. Et donc, c'est une crise. Donc, le plan d'action est une façon de vraiment pour l'ONU de se réorganiser autour de ce défi. et de reconnaître qu'on doit répondre dans une façon très différente. Notre approche au passé était vraiment une approche humanitaire. On comprenait que ce problème serait à court terme, qu'il fallait sauver des vies surtout, qu'il fallait venir le plus vite possible, mais que ça va se gérer plus ou moins. Et les gouvernements eux-mêmes aussi avaient un peu, ils avaient absolument la même attitude. Un problème à court terme, surtout humanitaire, qui va s'améliorer un peu tout seul. 15 ans, 20 ans plus tard, on s'est rendu compte qu'effectivement, on a besoin d'une boîte d'outils très différente. Donc le plan d'action, effectivement, c'est cette nouvelle boîte d'outils qui cible la prévention, qui cible une meilleure réponse humanitaire et qui cible un meilleur soutien au gouvernement à trouver des solutions pour des personnes déplacées pendant des années, des personnes déplacées à long terme. Donc, le plan d'action a des actions par tout le système de l'ONU. Ça implique non seulement l'ONU, mais la Banque mondiale, les banques de développement régionaux. Et on essaye de s'organiser d'une façon très différente. Un soutien à long terme où surtout les gouvernements eux-mêmes, les gouvernements, le Nigeria, l'Éthiopie, la Colombie, la Somalie, sont vraiment au centre de notre soutien. C'est eux qui gèrent le problème, c'est eux qui doivent en fait trouver les solutions pour leurs propres citoyens et nous devons leur soutenir d'une façon beaucoup plus, disons, effective.
Alors vous avez justement, vous parlez de ces pays, vous avez établi une liste de 15 pays prioritaires hein, par rapport à ce programme d'action. Est-ce que vous avez déjà quelques exemples concrets de choses qui se sont améliorées dans ces pays, de résultats concrets de la mise en place de ce plan ?
Absolument. Effectivement, en essayant de trouver un nouveau modèle pour ce travail, on a ciblé 15 pays où on allait essayer de concrétiser un peu ces idées. Donc parmi nos 15 pays prioritaires, on a travaillé dans une façon très étroite avec l'équipe de l'ONU au niveau pays, mais en soutenant les gouvernements eux-mêmes. Et ces gouvernements ont vraiment géré le problème. On a établi vraiment du travail assez important. Plusieurs parmi eux ont établi des nouvelles stratégies pour des solutions ciblant entre aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui 8,5 millions de déplacés qui ont été maintenant ciblés par ces gouvernements avec qui nous travaillons pour des solutions. On a des plans, on a des besoins financiers, on a commencé la mise en œuvre dans plusieurs de ces pays. Donc on a vraiment, c'est le début, mais on a un niveau d'engagement beaucoup plus élevé vis-à-vis des gouvernements eux-mêmes. On a une participation par les déplacés eux-mêmes aussi dans le processus, qui est vraiment à un niveau assez important. On a une équipe de l'ONU qui s'est réorganisée. On a créé des nouveaux instruments de financement. On a créé des nouveaux données de base pour gérer un peu le travail. On a créé des nouveaux partenariats avec des banques de développement. Et on a vraiment ouvert un peu le débat autour de cette question. Donc, non seulement les acteurs humanitaires et nos équipes humanitaires ont touché 5 millions de déplacés internes en 2023. Donc, pour voir un peu le niveau de ce travail, c'est quand même extraordinaire. Mais non seulement les humanitaires aujourd'hui, mais nos équipes qui travaillent sur le changement climatique, nos équipes qui travaillent sur le développement à long terme, toutes ces équipes maintenant sont impliquées dans ce travail dans une façon vraiment très, très nouveau.
Alors justement, vous avez expliqué cette coordination entre les différents acteurs et notamment le changement climatique, vous l'avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui, le lien est fait entre la situation de certains déplacés internes et le changement climatique ? Est-ce qu'il y a déjà des déplacés internes par rapport au changement climatique ?
Premièrement, on voit effectivement que ces chiffres de déplacement à cause du changement climatique augmentent chaque année d'une façon assez dramatique. Donc l'avenir va être surtout ce lien. Mais ce qui me concerne beaucoup, c'est qu'effectivement, on voit beaucoup d'endroits aujourd'hui, de beaucoup de pays, où le changement climatique et le conflit sont tous les deux impliqués ensemble. Et c'est difficile de voir un peu où une commence et l'autre finit, disons. Par exemple, en Somalie. on a des millions de déplacés en Somalie qui sont déplacés à court terme à cause de l'insécurité. Et ils se déplacent en ville en cherchant la sécurité, disons, et accès aux services. Mais quand on leur demande s'ils veulent rentrer chez eux, dès que la sécurité s'améliore, ils sont déjà très clairs qu'ils vont rester en ville. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu 5 ans de sécheresse et qu'ils ne peuvent pas se soutenir chez eux, plus maintenant. Donc ce qui se passe aussi, c'est un processus, disons, d'urbanisation à cause du changement climatique très accéléré. Donc la plus grande partie des déplacés internes se trouve en ville, pas dans des zones rurales, et une plus en plus grande partie sont vraiment poussées par un changement climatique chez eux, disons.
Vous avez expliqué la bonne coordination avec les pays, les 15 pays cibles qui font partie du programme d'action sur les déplacements internes. Est-ce que d'une manière plus globale, la communauté internationale est assez mobilisée aujourd'hui sur cette question des déplacements internes ? On parle beaucoup des réfugiés, on parle beaucoup de certaines circonstances, des réfugiés par exemple ukrainiens, mais est-ce que la communauté internationale a bien pris en compte cette problématique des déplacés internes ?
Je veux dire que non. On a fait beaucoup de progrès. Ce qui est important maintenant, c'est que cette question fait partie des débats, des différents débats. La semaine prochaine, à la commission de paix, de Peace Building Commission à New York, à Washington avec la Banque mondiale. Donc, il y a certainement une meilleure visibilité. Mais absolument, je dois dire que c'est un travail qui est vraiment juste au début. La reconnaissance de ce problème, et disons dans notre architecture intergouvernementale, il n'y a pas un endroit pour discuter les déplacés internes qui fait venir tous ces différents secteurs. Donc, lorsqu'on a des forums pour les réfugiés, on a des conférences sur les migrants, qui sont d'ailleurs des chiffres beaucoup plus bas que les déplacés internes, on n'a rien comme ça pour les déplacés internes. C'est quelque chose qui nous échappe.
Alors peut-être pour terminer justement, un message à l'occasion de ce deuxième anniversaire du programme d'action sur les déplacements internes. Quel est le message finalement que vous souhaiteriez faire passer à cette occasion ?
Moi, je dirais deux messages clés, si vous me permettez. Premièrement, on a vraiment fait du progrès très important et je suis très fier de ce travail qui est surtout un travail, ce progrès qui est surtout par les gouvernements eux-mêmes. Et je pense qu'on doit vraiment reconnaître leur travail, leur leadership. C'est vraiment ça a été assez extraordinaire. Mais deuxième message, on est loin de déclarer un succès, disons. On a quand même toujours des défis, surtout, je dirais, sur la prévention, parce que les chiffres sont plus élevés aujourd'hui que quand on a commencé ce plan d'action. Donc, il y a quelque chose, évidemment, qui ne va pas. On doit vraiment regarder un peu nos efforts de prévention. Et quand on regarde le Soudan, Gaza, on doit se rendre compte que nos outils sur la gestion du conflit ne sont pas suffisants. Ça, c'est clair. Et puis, deuxième défi pour moi, et on a touché là-dessus à la fin de notre discussion, c'est sur cette question de gouvernance.